Chapitre 50, la cachette. Pénélope et Björn ignorent combien de temps ils sont restés cachés sans faire un bruit dans le creux du rocher. La première nuit, ils s'étaient tapis dans l'ombre sous le tronc d'un pin renversé. Ils n'avaient plus la force de fuir. Exténués, ils s'étaient relayés pour dormir et monter la garde. Jusqu'alors, le tueur avait anticipé leur moindre réaction, mais depuis un moment déjà, il ne ressentait plus sa présence. Il semblait étrangement absent, et l'effrayante sensation d'une ombre glaciale dans leur dos avait disparu lorsqu'ils avaient quitté la route menant aux premières maisons. Contre toute attente, ils avaient décidé de pénétrer dans la forêt pour s'éloigner des habitations. Pénélope n'est pas sûre d'avoir réussi à laisser un message à sa mère. Mais elle espère que bientôt on retrouvera leur bateau et que la police entamera des recherches. L'unique possibilité qui s'offre à eux est de se cacher pour que le tueur ne les repère pas. Le rocher est recouvert de mousse, mais dans la petite cavité, la pierre est nue et ils ont lapé l'eau claire qui s'écoulait entre les interstices avant de retourner dans l'ombre. Haletants et accablés de chaleur, ils sont restés cachés toute la journée. Ce n'est que le soir venu, une fois la température retombée, qu'ils ont pu enfin trouver un peu de repos. Des bribes de rêves et quelques souvenirs flous se bousculent dans la tête de Pénélope, tandis qu'elle dort d'un sommeil agité. Elle entend Viola jouer « À vous dirai-je maman » sur son minuscule violon sur lequel de petits autocollants indiquent la position des doigts. Puis, elle la voit devant un miroir, appliquant du fard à paupières rose sur ses yeux en creusant ses joues. Pénélope se réveille en cherchant son souffle. Björn, qui tremblote à côté d'elle, est assis, les bras en serrant ses genoux. La troisième nuit touche à sa fin, et ils sont si affamés et à bout de force qu'ils décident de quitter leur cachette. Le jour se lève lorsque Björn et Pénélope parviennent au bord de l'eau. Les longues jonques de nuages sont déjà teintées de rouge par le soleil émergent. L'eau est calme et scintille dans la lumière matinale. Deux cygnes tuberculés s'éloignent lentement du bord. Björn tend la main pour conduire Pénélope jusqu'au rivage, mais soudain ses genoux lâchent. Il vacille, glisse mais parvient à se rattraper en prenant appui sur un caillou. Pénélope regarde fixement dans le vide tandis qu'elle enlève ses chaussures. Elle les attache par les lacets et les suspend autour de son cou. « Viens !» chuchote Björn. « Ne réfléchis pas. Nage !» Pénélope veut lui demander d'attendre et n'est pas sûre de pouvoir y arriver, mais il est déjà dans l'eau. Elle frissonne et observe l'île située encore plus loin dans l'archipel de Stockholm. Elle le suit, sent la morsure de l'eau froide autour de ses mollets et de ses cuisses. Le fond est caillouteux et glissant, mais gagne vite en profondeur. Elle n'a pas le temps d'hésiter et pénètre dans l'eau à la suite de Björn. Les bras engourdis, elle commence à nager vers l'autre rive malgré le poids de ses vêtements. Björn est déjà loin devant elle. Chaque brasse représente un effort insupportable. Ses muscles semblent hurler dans son corps. L'île qui mène d'eux s'étale au loin tel un banc de sable. Elle ballotte de ses jambes fatiguées, lutte pour avancer et se maintenir à flot. Soudain, elle est aveuglée par les premiers rayons de soleil qui passent au-dessus des arbres. Éblouie, elle arrête de nager. Même si elle n'a pas encore de crampes, ses bras ne la portent plus. Elle s'immobilise pendant quelques secondes à peine, mais cela suffit pour que ses lourds vêtements l'entraînent sous la surface, avant que ses bras ne lui obéissent de nouveau. Lorsqu'elle sort la tête de l'eau, elle est terrifiée. L'adrénaline a envahi son corps, elle respire rapidement et a perdu tout sens de l'orientation. Elle ne voit que la mer qui la cerne de toutes parts. Elle bat désespérément des pieds, tourne sur elle-même, réprime son envie de hurler, puis aperçoit enfin la tête de Björn qui ballotte juste au-dessus de la surface, à 50 mètres environ. Pénélope nage dans sa direction en ignorant si elle trouvera la force nécessaire pour atteindre l'autre île. Les chaussures attachées autour de son cou gênent ses mouvements. Elle tente de s'en défaire, mais elles se prennent dans sa croix. Puis la fine chaîne se brise et la croix de Pénélope sombre dans les profondeurs avec ses chaussures. Elle reprend sa nage et sent les battements lourds de son cœur qui cognent dans sa poitrine. Au loin, elle aperçoit Björn qui rampe hors de l'eau. Il devrait se cacher au plus vite, mais il se retourne pour la repérer. Le tueur pourrait se trouver sur une plage au nord d'Orneux et scruter les alentours avec ses jumelles. Peu à peu, les mouvements de Pénélope ralentissent. Elle s'affaiblit considérablement et sent ses jambes s'engourdir. L'acide lactique se diffuse dans les muscles de ses cuisses. Elle n'arrive plus à nager. Les derniers mètres lui paraissent insurmontables. Le regard de Björn trahit son inquiétude. Il entre dans l'eau pour aller à sa rencontre. Elle est de nouveau sur le point de laisser tomber, mais trouve l'énergie de faire encore quelques brasses. Enfin, elle se rend compte qu'elle a pied. Björn la tire contre lui et la hisse sur la plage de cailloux.
« Il faut qu'on se cache !»
dit-elle haletante. Il l'aide à atteindre les premiers sapins. Elle ne sent plus ses jambes ni ses pieds et tremble de froid. Il pénètre de plus en plus profondément dans la forêt et ne s'arrête que lorsque la mer n'est plus en vue. À bout de force, il s'affaisse sur la mousse au milieu des buissons de myrtilles et s'enlace en attendant que leur respiration se calme.
« Ce n'est plus possible !»
gémit-elle. Pénélope claque les dents contre la poitrine gelée de Björn.
« J'ai froid !»
dit-elle.
« Il faut qu'on trouve des vêtements secs !»
Il se relève lentement et il s'efforce de la soutenir lorsqu'il commence à marcher. Björn patauge à chaque pas dans ses baskets trempées. Sur le sol, les pieds nus de Pénélope apparaissent d'une extrême blancheur. Son jogging gorgé d'une eau glacée pèse sur ses hanches. En silence, il se dirige vers l'est et s'éloigne d'Orneux. Après 20 minutes, ils atteignent l'autre plage. Le soleil est désormais haut dans le ciel et ses reflets illuminent la mer étale. L'air commence à se réchauffer. Pénélope s'arrête devant une balle de tennis qui gît dans les herbes hautes du pré. D'un jaune verdâtre, l'objet lui paraît curieusement étranger. Ce n'est qu'en relevant la tête qu'elle aperçoit la maison, presque entièrement dissimulée derrière une épaisse haie de lilas. Une petite maison rouge avec une belle terrasse qui donne sur la mer. Tous les rideaux sont tirés. Sous une tonnelle, elle aperçoit une balancelle sans coussin. La pelouse n'est pas entretenue et une branche semble être tombée d'un vieux pommier en travers de l'allée de pavés gris clair.
« Il n'y a personne !»
chuchote Pénélope. Il redoute encore que leur venue ne provoque des aboiements ou des cris de surprise et s'approche avec prudence. Il scrute l'intérieur par l'interstice des rideaux, contourne la maison et tente d'ouvrir doucement la porte d'entrée. Elle est fermée à clé. Pénélope balaye la façade du regard.
« Il faut qu'on entre, on a besoin de se reposer, » dit Björn. « On va devoir casser une vitre. »
Un pot en terre glaise est appuyé contre le mur. Il contient une petite plante aux fines feuilles vert pâle. Pénélope reconnaît l'odeur de la lavande lorsqu'elle se penche pour ramasser l'une des pierres dans la terre du pot. La pierre est en plastique et munie d'un petit couvercle sur le dessous. Elle l'ouvre, en sort une clé et remet la fausse pierre dans le pot. Ils ouvrent la porte et pénètrent dans une petite entrée. Le sol y est recouvert de parquet en pin. Pénélope sent ses jambes trembler. Elle semble sur le point de s'écrouler. Elle tâtonne autour d'elle pour trouver quelque chose sur quoi prendre appui. Les murs sont tapissés d'un papier peint à médaillons pelucheux. Pénélope est si fatiguée et affamée que la maison lui paraît irréelle, comme une maison en pain d'épices. Des photos encadrées et dédicacées sont accrochées au mur. Il y a aussi des signatures ou de petits textes écrits à l'encre dorée ou au feutre noir. Ils reconnaissent les visages de divers présentateurs d'émissions de télévision suédoises. Sivert Öholm, Bengt Bedrup, Kjell Leno, Arne Egefors, Magnus Ehrenstam, Malena Ivarsson, Jakob Dahlin. Ils traversent le salon, pénètrent dans la cuisine et scrutent la pièce d'un regard nerveux.
« On ne peut pas rester là !»
chuchote Pénélope. Björn ouvre la porte du frigo. Il est rempli de produits frais. Contrairement à ce qu'ils avaient cru, la maison n'est pas inoccupée. Björn jette quelques coups d'œil autour de lui, puis s'empare d'un fromage, d'un demi-salami et d'une brique de lait. Pénélope trouve une baguette et une boîte de cornflakes dans le garde-manger. Il s'empresse d'arracher de gros morceaux de pain qu'ils avalent avec du fromage. Björn boit le lait directement à la brique. Le liquide coule sur son menton et le long de son cou. Pénélope mange du salami au poivre et des céréales. Après avoir pris la brique de lait, elle boit, avale de travers, tousse et boit de nouveau. Il se sourit nerveusement, s'éloigne de la fenêtre
et mange encore avant de se calmer.
« Il faut qu'on trouve des habits avant de continuer, » dit Pénélope.
Tandis qu'ils fouillent la maison, ils ressentent peu à peu une sensation de chaleur envahir leur corps. Ils ont repris des forces, ils ont le ventre lourd, leur cœur bat plus vite et ils sentent le flux du sang dans leurs tempes.
Dans la plus grande chambre à coucher, une porte-fenêtre donne sur la tonnelle recouverte de lilas. Une immense penderie s'étend sur toute la longueur de l'un des murs. Pénélope s'y précipite et ouvre l'une des portes coulissantes recouvertes de miroirs.
« C'est quoi tout ça ?»
Des vêtements complètement insolites s'étalent sous leurs yeux, parmi lesquels des costumes dorés, des ceintures à paillettes noires, un smoking jaune et une petite veste en fourrure légère. Étonnée, Pénélope fouille dans un tas de strings, de slips tanga transparents, à motifs tigrés, camouflage ou encore tricotés. Elle ouvre une autre porte et tombe sur des pulls, des vestes et des pantalons beaucoup plus classiques que les précédents. Elle fouille rapidement dans la penderie et en extirpe quelques vêtements. Elle baisse alors son jogging et son bas de bikini trempé, ôte son sweat à capuche et son haut de bikini crasseux. Soudain, elle aperçoit son reflet dans le miroir. De nombreux hématomes parsèment tout son corps et des mèches noires pendouillent le long de son visage plein d'égratignures. Elle a des éraflures et des bleus sur le tibia. Du sang coule toujours d'une plaie sur sa cuisse et sur sa hanche, elle voit la longue écorchure qu'a provoquée sa chute. Elle enfile un pantalon de costume froissé, un t-shirt affichant la phrase « mange plus de porridge » et un pull en tricot qui lui arrive jusqu'au genou. Elle se réchauffe et son corps se languit d'un peu de repos. Soudain, elle fond en larmes, parvient à se calmer rapidement et va chercher des chaussures dans l'entrée. Elle trouve une paire de bottes bleu marine et retourne dans la chambre. Björn est encore mouillé et couvert de boue. Il se contente d'enfiler un pantalon en velours violet par-dessus sa crasse. Ses pieds pleins de terre et recouverts de plaies laissent des traces de sang sur le sol. Il enfile un t-shirt bleu et une veste en cuir bleu clair cintrée à large revers. Pénélope est à bout de force. Elle ne parvient pas à retenir ses larmes. Son corps est parcouru de convulsions. Elle est secouée par des vagues de pleurs qui semblent contenir toute la terrifiante absurdité de leur fuite.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
gémit-elle.
« Je ne sais pas, » chuchote Björn. « On n'a pas vu son visage. Qu'est-ce qu'il veut ? Mais qu'est-ce qu'il veut, bordel ? Je n'y comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il est après nous ? Pourquoi est-ce qu'il veut nous faire du mal ?»
Elle essuie ses larmes avec la manche de son pull.
« Je me dis, » poursuit-elle, « je veux dire, imagine que Viola ait fait quelque chose de stupide. Parce que tu vois, son petit copain Sergueï, avec qui elle a rompu, c'est peut-être un criminel. Je sais qu'il a travaillé comme videur.
Penny.
Je veux dire, Viola, elle est tellement... Elle a peut-être fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû.
Non, chuchote Björn.
Comment ça non? On n'en sait rien. Tu n'as pas besoin de me réconforter.
Il faut que je...
Lui, l'homme qui nous suit, il veut peut-être simplement nous parler. Je sais que ce n'est pas le cas, c'est juste que je ne sais plus ce que je dis.
Penny, dit Björn d'un ton grave, tout ce qui est arrivé est ma faute. Il la regarde. Ses yeux sont injectés de sang, ses joues d'un rouge intense sur son visage blafard.
De quoi tu parles? De quoi tu me parles?
Demande-t-elle d'une voix basse. Il déglutit lentement puis explique.
J'ai fait quelque chose de vraiment stupide, Penny. Qu'est-ce que tu as fait?
C'est à cause de la photo.
Quelle photo? Celle de Palmkrona et Raphaël Guidi?
Oui. J'ai contacté Palmkrona. Je lui ai parlé de la photo et lui ai dit que je voulais de l'argent, mais...
Non,
chuchote-t-elle. Pénélope le fixe incrédule. Elle s'éloigne de lui à reculons et renverse la table de chevet sur laquelle étaient posés un verre d'eau et un radio-réveil.
Penny, non, tais-toi!
L'interrompt-elle d'une voix ferme.
« Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu es malade, tu as fait chanter Palmkrona, tu as profité de... Mais écoute-moi. Je l'ai regretté aussitôt, j'ai eu tort, je le sais. Il a eu la photo, je lui ai envoyé la photo. »
Silence. Pénélope s'efforce de comprendre ce qu'il vient de dire. Les pensées se bousculent dans sa tête.
« C'est ma photo. » dit-elle lentement en tentant de rassembler ses esprits. « Il se peut qu'elle soit importante. C'est peut-être une photo importante. La personne qui me l'a envoyée m'a fait confiance. Il peut y avoir quelqu'un qui sait quelque chose qui... Je voulais juste éviter de devoir vendre le bateau,
chuchote-t-il au bord des larmes.
Je n'arrive pas à comprendre. Tu as envoyé la photo à Palmcrona?
J'y étais obligé, Penny. J'ai compris que j'avais mal agi. J'étais obligé de lui donner la photo.
Mais il me la faut. Tu ne le comprends pas. Imagine que la personne qui me l'a envoyée veuille la récupérer. Il s'agit de quelque chose d'extrêmement important, de l'export d'armes suédois.
Il ne s'agit pas de ton argent, ça n'a rien à voir avec nous, ce n'est pas un jeu, Björn.
Pénélope le regarde d'un air désespéré. Elle hausse le ton et dit d'une voix stridente
« Il s'agit d'êtres humains, de leur vie !»« Tu me déçois, tu peux pas savoir, »
dit-elle d'un ton là.
« Je suis tellement en colère contre toi que je pourrais te frapper. » Je n'en peux plus.
Mais Penny, je ne savais pas. Comment est-ce que j'aurais pu savoir?
Tu ne m'as rien dit. Tu as dit que la photo était gênante pour Palmcrona. Tu n'as pas dit que...
Quelle importance? L'interrompt-elle.
Je pensais juste que...
Tais-toi!
Crie-t-elle. Je ne veux pas écouter tes excuses bidons. Tu n'es qu'un pauvre maître chanteur. Je ne te connais pas et tu ne me connais pas non plus.
Elle se tait et ils se tiennent un moment face à face sans dire un mot. Une mouette pousse un cri qui est bientôt suivi par d'autres, comme autant d'échos plaintifs.
« Il faut qu'on continue, » dit Björn faiblement.
Pénélope hoche la tête, et soudain ils entendent la porte d'entrée s'ouvrir. Sans échanger un regard, ils reculent en même temps et rejoignent la chambre à coucher. Björn tente d'ouvrir la porte de la terrasse, mais elle est fermée à clé. Les mains tremblantes, Pénélope détache les crochets des fenêtres, mais il est trop tard pour fuir.